Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au deuxième temps, donc je vais commencer par vous, puisqu'on parle de valeur, et qu'en 3 minutes, chacun nous dise exactement, puisqu'on a parlé de diagnostic, on a dit un peu ce qui ne marchait pas, qu'en 3 minutes, chacun nous dise ce qu'il pense être les solutions possibles. Donc voilà, si vous pouviez nous dire ce que vous pensez de chacun dans son domaine, quelles sont les solutions possibles, comment on peut faire pour avancer et comment on peut améliorer cette mesure de la biodiversité qui me semble, somme toute, indispensable pour qu'on l'intègre, qu'on la hiérarchise dans notre système de valeurs. Merci. On va commencer par vous, Alain Kersanti.
D'accord, bon, ça me permettra de répondre à une des questions qui avait été évoquée sur la question de la compensation. Je pense que c'est une question ambiguë, cette question de la compensation, parce que ce soit pour le carbone ou pour la biodiversité, on peut compenser, mais ne pensons pas que la compensation veut dire neutralité. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des irréversibilités, il y a des milieux qui ont des caractéristiques uniques. Même pour le carbone d'ailleurs, les fameuses compensations carbone, c'est, bon, on ne va pas en discuter maintenant, ce n'est pas le sujet, mais on peut avoir de la compensation en partie, la neutralité c'est un autre problème. La question est de savoir quels instruments peuvent être utiles. Alors on a un instrument que j'ai évoqué qui sont les paiements pour services environnementaux, qui sont quelque chose qui se développe beaucoup dans beaucoup de pays. Je dirais que le vrai problème de cet instrument est double. C'est d'abord le consentement à payer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des instruments qui ne fonctionnent dans un certain nombre de pays que s'ils sont adossés véritablement à des politiques publiques, par exemple au Mexique, par exemple au Costa Rica. Là, on peut avoir des systèmes dans lesquels on a des taxes qui sont prélevées sur... soit les hydrocarbures, soit sur l'eau, pour le cas du Mexique, et qui vont alimenter un fonds qui va servir à rémunérer les gens pour conserver des forêts à cause de leur rôle du point de vue notamment de l'eau ou du point de vue général, du point de vue d'un ensemble de services écosystémiques qui sont possibles. Donc ça, c'est un instrument qui se développe beaucoup, qui a quelques effets pervers quand même. L'un des premiers problèmes, c'est un problème classique d'efficacité. Au Costa Rica, où cet instrument est très développé, on s'est aperçu que dans à peu près entre 90 et 95% des cas, on payait des gens pour conserver des forêts qu'ils auraient conservées de toute façon, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas coupé. Donc vous avez un vrai problème avec ce genre d'instrument, c'est-à-dire que soit vous ne payez que... vous avez un très fort coût d'acquisition de l'information pour ne payer que pour que des gens qui vont véritablement changer leur comportement, ou qui vont en tout cas conserver des forêts alors qu'ils auraient l'opportunité de faire autre chose. Et très souvent, savoir quelle est cette information a un coût. Alors l'économiste dit on va effectivement essayer d'avoir l'information pour ne payer que là où les forêts sont en danger, où l'écosystème est menacé. Simplement, le coût d'acquisition de l'information est très élevé. Souvent, on ne le fait pas. Résultat, on a très très souvent un manque d'efficacité. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'il aurait été nécessaire de faire. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème de cet instrument, c'est un problème, c'est qu'au fond, dès lors que vous commencez à payer les gens pour qu'ils conservent des écosystèmes, vous risquez de changer les représentations des gens vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire de passer de logiques où des gens conservent de manière désintéressée la nature à des logiques d'intéressement généralisé. Et donc, éventuellement, avec des risques de dérapage vers des chantages écologiques. C'est-à-dire, en gros, si vous ne me payez pas, je détruis mon écosystème, je détruis la zone humide qui est dans mon champ, je détruis la forêt, etc. etc. Et ça, c'est un des problèmes lorsqu'on utilise ce type d'instrument, c'est qu'on introduit une dimension, on n'est pas en train de marchandiser la nature, ce n'est pas mon propos. On met en place des systèmes d'incitation et des systèmes d'intéressement qui finissent par changer les représentations. Et donc on a les gens qui sont dans le système, les gens dehors du système. Alors on a des tas de problèmes d'effet d'aubaine et on a ce type de problèmes qui sont autour d'un champ non seulement de l'efficacité de l'outil lui-même et du coût que cela représente, mais également du changement de représentation qui est porté par l'utilisation de cet outil. Je vais peut-être m'arrêter pour des raisons...
Merci beaucoup, Alain Kersanti. Merci de tenir compte du timing. Donc, on va... Pour les entreprises, alors, ou pour vous-même, qu'est-ce que vous pensez des solutions possibles?
Alors, les pistes qu'on entrevoit du côté de cette évaluation de la biodiversité, moi, je me demande si la question, c'est pas aussi quoi évaluer On a aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est l'approche carbone, enfin changement climatique, on a le bilan carbone qui est obligatoire pour les organisations liées au Grenelle. Il y a une vraie attente, je pense, des entreprises de comptabiliser, de quantifier les impacts et les dépendances en termes d'un point de vue physique. Donc pourquoi pas demain un bilan biodiversité des organisations qui aujourd'hui n'existe pas, qui serait un instrument de pilotage justement en termes de flux physique. Là, on ne parle même pas spécifiquement de quantification monétaire. Je pense que ça serait une première étape. La deuxième étape, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport à l'approche produit, l'approche organisation. En termes de reporting extra-financier pour les entreprises, il n'y a aujourd'hui aucun indicateur vraiment solide en matière de biodiversité. Donc il y a certaines réflexions qui sont en cours. Et sur tout ce qui est affichage environnemental, analyse de cycle de vie des produits, de la performance environnementale des produits, on est aussi en réflexion sur le lien avec la biodiversité. Donc tant qu'on n'aura pas aussi des outils de mesure, des indicateurs fiables pour les entreprises reconnues au niveau d'un secteur, elles auront du mal aussi à avancer, à se benchmarker, si vous me passez l'expression, pour avancer sur le sujet. Donc je pense qu'en termes de flux physique et d'indicateurs, on a pas mal de choses à faire. Et après, il me semble que dans le futur, on ne s'exonérera pas non plus d'avoir des réflexions comptables sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, le capital naturel, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte dans nos règles de comptabilité, et on ne pourra pas éternellement créer de la richesse en dégradant le capital naturel sans jamais le prendre en compte dans les comptes, dans les états financiers des entreprises. Donc là, il y a des réflexions qui sont en cours, mais qui seront aussi probablement très longues, mais qui sont, à mon avis, un facteur déterminant pour que les entreprises changent aussi leur façon de voir sur le sujet. Et si on met effectivement des éléments dans les règles comptables, elles vont aussi changer leur processus de décision pour prendre en compte le capital naturel. Voilà.
Ou en attendant, on va passer à Laurent Piron, effectivement. Si vous pouvez.
Merci. Alors, je vais parler de CDC Biodiversité, cette société que nous avons créée en 2008. Nous nous sommes demandé, mis à part le préambule que j'ai fait tout à l'heure, pourquoi la loi de 1976 sur la compensation écologique était si mal appliquée. Et au fond, il n'y a pas que de la mauvaise volonté des acteurs. Il y a le fait que compenser sur 50 ans, c'est très compliqué. Beaucoup d'entreprises n'en ont pas les moyens structurels ou financiers. Et deuxièmement, il n'y a aucune raison que la compensation d'une infrastructure donnée ait la moindre cohérence écologique. Voyez, aucune. Donc l'idée est de faire une opération de grossiste en écologie, en compensation écologique. Nous avons une première approche qui est une approche dite par la demande. Nous allons voir des maîtres d'ouvrage soumis à des obligations de compensation et nous leur proposons de réaliser leur compensation pour leur compte. Bon. Évidemment, en mettant des moyens importants et en regroupant des besoins de compensation, nous arrivons à reconstituer des infrastructures écologiques cohérentes. L'exemple le plus significatif, c'est la compensation que nous faisons en ce moment pour l'autoroute A65 de Pau à Bordeaux, où nous reconstituons à peu près 1400 hectares d'infrastructures écologiques, pardonnez-moi le terme, mais c'est un peu de ça qu'il s'agit, avec 40 hectares à Fadé-des-Lèches, 17 hectares à Sirpe des Bois, 300 hectares à Vison et d'autres d'Europe, etc. Et puis, deuxièmement, nous avons, avec le ministère de l'écologie, décidé d'innover en créant une banque de compensation à la française. L'idée est la suivante. Nous investissons en fonds propres pour reconstituer, pour faire une bonne action écologique, disons, reconstituer une infrastructure écologique. C'est ce que vous avez vu comme description sur le film muet. Et nous avons une validation par l'État de cette opération. Et cette validation nous donne le droit de proposer le financement de cette action à des maîtres d'ouvrage qui seront soumis à des obligations de compensation. Alors, l'inconvénient, enfin, le risque de ce système, disent ces détracteurs, c'est que ça pourrait créer un appel d'air. Ah, puisqu'il y a une réserve de compensation, précipitons-nous pour faire une autoroute à côté. Bon, non, c'est pas vrai. Quoi. C'est pas pour ça que les gens font des autoroutes. Ils font pas des autoroutes pour pouvoir compenser. Mais enfin, c'est quand même un risque si ça se développait. Par contre, les avantages sont considérables. C'est, premièrement, la compensation a lieu avant la destruction. Deuxièmement, nous faisons d'emblée une opération cohérente au plan écologique. Et troisièmement, tout le monde peut vérifier que la compensation a eu lieu. La première opération que nous avons faite était dans l'Acro, et c'est une opération expérimentale menée en partenariat entre la Caisse des dépôts et le ministère de l'écologie. C'était notre page de publicité pour la coopération Caisse des dépôts au ministère.
Merci, merci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'effectivement, je vous promets qu'il y aura une autre série de questions. Hein, donc on va prendre les solutions, on va continuer de prendre les solutions. Donc il y aura une autre série de questions. Et deuxièmement, pour le film en question, il sera disponible sur le site des journées. Donc pour ceux qui veulent l'écouter avec le son, évidemment, ils pourront le faire. Donc pour l'instant, on va prendre les solutions proposées par l'État.
Voilà. Alors, je ne sais pas si on va parler de solutions, mais en tout cas, on a des expérimentations. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, à des réajustements périodiques, forcément sur la base d'informations importantes et régulièrement actualisées. Donc, qui dit information dit coût. Donc, on a des coûts de transaction importants. Donc, c'est ce dont parlait M. Carsenti, hein, que ce soit pour le ciblage des outils, des bénéficiaires ou pour l'adaptation de ces outils. Vraiment un champ de réflexion important qui est comment arriver à minimiser ces coûts, comment arriver à avoir le meilleur équilibre entre des outils qui soient bien ciblés, bien adaptés aux situations locales et des coûts de transaction qui ne soient pas trop importants. Voilà. Donc on essaye de réfléchir à ces outils qui soient bien adaptés aux enjeux, au contexte, autour de quelques principes clés. Donc parmi ces principes et ces critères clés, il y a vraiment l'adaptation de l'outil au type d'impact. On ne va pas du tout utiliser le même type d'outil si on a des impacts ponctuels qui vont amener à travailler sur des outils au cas par cas et sur des méthodes d'accompagnement qui vont faire appel à des études spécifiques sur la base de principes d'équivalence, ou si on a de très nombreux impacts diffus sur des enjeux qui sont peut-être moins importants, mais qui, si on les additionne les uns aux autres, peuvent avoir vraiment quand même connaître une très grande ampleur. Si on détruit des continuités écologiques, on peut peut-être en détruire une, mais à force d'atteinte, il y a vraiment tout le fonctionnement du réseau qui est en cause. Voilà, on va travailler là plutôt sur des mesures fiscales avec donc des barèmes simples qui sont applicables sans évaluation spécifique. Voilà, juste un dernier mot pour dire qu'on a bien sûr des considérations techniques dans le choix des outils, mais il y a aussi toute une réflexion qui relève de négociations collectives, de discussions collectives et de choix positifs. Politique, notamment dans l'équilibre à trouver entre des principes, qui sont des principes différents dans l'application de ces outils, selon qu'on applique davantage un principe pollueur-payeur, comme c'est le cas pour les taxes, les impôts, mais aussi tout ce qui relève de la responsabilité environnementale et de la compensation, ou sur des principes qui relèvent plutôt d'usager-payeur, hein, donc comme ce dont on a parlé pour le cas de la ville de New York, par exemple, où c'est bien sur l'usager qui va porter le coût donc, de la préservation. Voilà, ou des principes consommateur-payeur, comme c'est le cas pour l'affichage. Dans la pratique, on essaye d'avoir un bon équilibre entre les trois et de faire ça donc, en gouvernance à 5.
Merci. Avant de passer la parole à Gilles, je crois que puisque vous avez non seulement sacrifié votre vendredi matin, mais en plus vous commencez à sacrifier votre heure du déjeuner. Donc voilà, donc on va prendre des questions dans la salle.
Bonjour, Emmanuel Pascoviel, doctorant en biologie. Je voulais juste revenir sur un point. Vous avez beaucoup parlé de solutions au niveau de la France et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Ceci dit, si on raisonne en termes de biodiversité à l'échelle mondiale, la France, c'est gentil, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire la biodiversité végétale, animale, elle est clairement dans les forêts équatoriales. Amazonie, Afrique centrale, Asie du Sud-Est. Donc la question, c'est, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a eu des propositions comme le paiement pour de services environnementaux, donc essayer de maintenir la conservation de ces forêts. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vraiment maintenir ces écosystèmes, sachant que là, on n'a pas vraiment besoin de se poser la question de l'échelle, gène, espèce ou écosystème, parce que la menace principale, c'est la déforestation, donc c'est les écosystèmes dans leur globalité. S'il n'y a plus d'écosystèmes, il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de gènes.
Merci, merci pour cette question. On avait...
Je reprends au vol M. Carsenti qui m'a lancé tout à l'heure un appel au précédent ici. Au précédent débat, j'avais proposé la solution de consommateur-payeur en proposant que la taxe actuelle qui est sur le recyclage des produits soit transformée en une taxe qui soit aussi bien sociale que écologique. Donc si vous pouvez répondre à ça aussi. Merci.
Merci. Derrière vous, il y a...
Bonjour, Vivien Chartendreau, je suis vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux du Rhône et passionné de nature avant tout. Je voulais juste signaler une petite chose qui me passait par la tête, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans le Grand Lyon et dans le Rhône, ça fait pas longtemps que je suis revenu en France, mais je commence à bien voir un peu ce qui se passe. Et il y a des projets que nous accompagnons, qui rentrent dans le domaine de la compensation, mais qui sont complètement indépendant de l'évaluation monétaire. C'est-à-dire que c'est basé sur des contraintes réglementaires, ça a été abordé juste précédemment, c'est-à-dire les lois sur les espèces protégées, par exemple, destruction d'habitats d'espèces protégées, compensation par de la création d'habitats d'espèces protégées. Et ça fonctionne avant tout sur, je crois, de la bonne entente et de la bonne intelligence entre les acteurs qui savent se réunir autour d'une table. Et ça, c'est prioritaire. Il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table entre acteurs. Et c'est pas si évident que les grandes macro-stratégies de notre cher ministère veulent bien, des fois, le faire entendre. La deuxième chose, qui est une inquiétude quant à la CDC, c'est les banques de compensation. Alors moi, j'avais pas peur de l'effet appel de projets d'infrastructures gigantesques. Peut-être que j'ai pas bien compris le fonctionnement de la CDC Biodiversité, mais j'ai plus peur que des entrepreneurs y voient là un appel, pas pour faire des projets, mais pour compenser, c'est-à-dire se disent moi, je vais faire mon infrastructure ici, mon projet ici, mais parce que je sais que là-bas, il y a 1400 hectares dans la plaine de la Croix de Coussoul à acheter, entre guillemets, et il n'y a pas de souci, je vais compenser mon impact ici par du Coussoul là-bas en Croix. Et j'ai peur que ça désengage et déresponsabilise des entrepreneurs, et ça m'inquiète énormément.
Merci. Prendre les deux autres questions ici. Présenter aussi.
Oui, moi je suis professeur d'économie à Nantes. Voilà, je m'appelle Philippe Jaunet. Ma question, moi, portait sur le projet ou le dossier d'exploitation de gaz de schiste qui a été non pas complètement abandonné, semble-t-il, mais gelé par le gouvernement. Et je voulais savoir un petit peu quel type de réflexion avait été conduite pour conduire à cet abandon. Moi, dans la presse, j'ai vu ça d'un peu loin, mais j'ai vu qu'il y avait des risques dans la fracturation puis l'utilisation de produits chimiques qui posaient problème. Mais je n'ai pas vu qu'on avait évalué la biodiversité, par exemple, de la région. Et je m'interroge aussi sur la force de votre argumentation face au lobbying d'exploitants qui ont réussi, je crois, à obtenir du ministère que le projet était pour l'instant gelé, mais pas définitivement abandonné.
Oui, bonjour. Je suis enseignante. J'enseigne l'économie et le management interculturel. Traditionnellement, il y a deux conceptions du rapport de l'homme à la nature. La conception occidentale, l'homme est capable de maîtriser la nature, une vision linéaire de l'évolution, pour faire vite. Et l'autre conception, plutôt orientale, c'est qu'il y a une vision cyclique. L'homme se soumet aux règles de la nature. Je crois qu'aujourd'hui, le thème qui est choisi, finalement, a du sens si, dans l'objectif de sauver la planète, de préserver l'écologie, cette question est de toute façon de facto mondiale. Je voulais savoir si cette différence interculturelle, ce problème de conception du rapport de l'homme à la nature, existe au niveau des négociations internationales, parce que pour sauver la planète, si on ne se met pas tous d'accord au niveau de tous les pays, ça ne se fera pas. Donc est-ce que vous avez constaté que vous parliez de la même chose avec vos partenaires étrangers, je pense aux partenaires asiatiques, Voilà, qu'en est-il de cette question ? Merci.
Très bien, merci. Donc on va répondre à ces questions qui sont toutes les unes aussi intéressantes que les autres. On va commencer par vous, Monsieur Carsenti, sur la question des échelles, peut-être, déjà. C'est-à-dire, est-ce que ça fait sens de parler biodiversité à l'échelle de la France ?
Oui, non, mais je travaille effectivement, je ne travaille pas sur la France d'ailleurs, je travaille sur l'international et particulièrement sur la question des forêts tropicales. Donc moi, je suis très sensible à votre question, bien sûr. Sur la question des forêts internationales, et ça, on pourra parler des négociations également. Il y a dans les cartons, ça sera la conférence de Durban sur le climat, sauf dans 2 semaines, il y a un mécanisme qui est aujourd'hui piloté par la Convention climat, qui s'appelle le mécanisme RED, sur la réduction des émissions liées à la déforestation. Ce mécanisme, il est au fond calqué sur le même modèle que les paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire que le principe de base, c'est très très compliqué derrière, mais je ne vais pas me lancer là-dessus parce que sinon j'en ai pour 3 jours, c'est de payer les pays pour qu'ils réduisent leur déforestation. Et réduisant leur déforestation, ils vont émettre moins de carbone. Alors on espère, de ce point de vue, il y avait au départ, quand ce mécanisme a été lancé, il y avait une certaine alliance entre, au fond, les gens qui ont un intérêt fort pour la biodiversité et les gens qui ont un intérêt fort pour le carbone. Au départ, on pensait que la biodiversité viendrait comme un co-bénéfice du maintien des forêts pour des raisons, effectivement, de réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Simplement, la manière dont la négociation a évolué, d'abord, ce mécanisme n'est toujours pas opérationnel, il ne le sera peut-être jamais, parce que c'est d'une complexité très très importante pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Le deuxième problème, c'est que au départ, il s'agissait de conserver des forêts de manière des forêts naturelles, et au fur et à mesure que la négociation s'est développée, on a vu revenir l'augmentation des stocks de carbone, c'est-à-dire le retour, par exemple, des grandes plantations. Qui sont des champs d'arbres monospécifiques poussés par, dans la négociation, des pays asiatiques, notamment comme la Chine et l'Inde, qui veulent absolument que leurs grandes plantations faites pour faire de la pâte à papier dans de très grosses usines soient prises en compte dans les rémunérations futures possibles. Donc je dirais que de ce point de vue, ce mécanisme RED, il est aujourd'hui à la fois avec un grand point d'interrogation, et surtout il y a une rupture entre les deux communautés épistémiques qui au départ étaient alliées, c'est-à-dire qu'au départ il y avait les biologistes les gens pour la biodiversité qui soutenaient ce mécanisme, et aujourd'hui ils sont extrêmement méfiants parce que, la biodiversité n'est qu'un co-bénéfice indirect et elle n'est pas effectivement l'élément principal. Et si cet instrument, si on a un marché du carbone derrière, on aura bien sûr, un risque, comme on a vu pour le mécanisme de développement propre, c'est que finalement la biodiversité soit complètement oubliée dans cette affaire au profit tout simplement d'une maximisation d'un seul intérêt qui est celui du carbone, et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors pour la question interculturelle, je dirais que malheureusement, faut pas se faire d'illusions, il y a des rapports différents à la nature, c'est tout à fait clair. Au niveau, en tout cas, des pays et des gouvernements dans la négociation internationale, je peux vous dire que ça ne se sent absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est mis en avant par les pays d'Asie, par les pays d'Afrique, c'est « nous avons des besoins de développement ». Vous avez détruit vos écosystèmes, vos forêts, votre biodiversité. Il n'y a aucune raison que vous nous empêchiez de faire la même chose. Bien sûr, c'est différent quand on va discuter avec des Amérindiens dans une forêt péruvienne. C'est tout à fait différent quand on va discuter avec un certain type de population, mais même quand on est en Afrique centrale, que vous parliez des pygmées ou à ce qu'on appelle des bantous de manière un peu impropre, mais qui sont des villageois, ils n'ont pas le même rapport à la nature. Les uns sont des essarteurs, les autres, effectivement, sont plutôt des chasseurs-cueilleurs à l'origine, en tout cas, donc n'ont pas le même rapport à la nature. On n'a pas la même chose. Je dirais que ce dont on a besoin pour ces forêts et pour ces pays, c'est de trouver les moyens, non pas de payer ces gens pour qu'ils soient nos jardiniers, pour qu'ils soient les conservateurs de la nature à notre place, ça je crois que c'est une idée totalement absurde, pour qu'ils deviennent des rentiers à la conservation, mais on a besoin de trouver des instruments qui vont permettre de faire des transitions écologiques, c'est-à-dire notamment pour que les paysans d'Afrique, les paysans d'Asie du Sud-Est puissent trouver des nouveaux itinéraires qui leur permettent de ne pas consommer de la forêt pour la fertilité. Mais ce n'est pas tellement le problème. Le vrai problème, c'est fondamentalement la demande mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les forêts sont détruites et les écosystèmes, y compris les écosystèmes marins, parce qu'il y a des demandes de plus en plus fortes autour de l'huile de palme, autour de la canne à sucre, autour d'un certain nombre de grandes communautés agricoles. Ça, ce sont les grands moteurs. Donc là, c'est directement lié à des questions liées à nos modes de consommation et nos modes de production, bien évidemment. Alors, excusez-moi, madame, je n'ai pas entendu votre question.
Je suis désolé, Alain, mais je crois que j'ai promis qu'on allait terminer à l'heure. Donc, Laurent Pierbon, une minute sur la question de la compensation non monétaire et puis vraiment sur ce point-là. La question de la Ligue de protection des oiseaux.
Je comprends les réserves sur la compensation, bien entendu. L'expérience que nous commençons à avoir montre que ce n'est pas l'existence d'une possibilité de compensation qui génère des projets. Parce qu'au fond, le projet coûte infiniment plus cher que la compensation. Enfin, pas infiniment, mais beaucoup plus cher que la compensation. Et depuis 1976, cela n'a pas empêché du tout le fait que la dégradation de la nature s'accélère. En n'ayant pas de système de compensation, nous avons perdu des milliards, des dizaines de milliards d'euros pour préserver la nature. Alors concrètement, il y a un dispositif. Cette banque de compensation, nous l'appelons réserve d'actifs naturels. Donc il y a un dispositif de verrou très très solide. Par exemple, dans l'opération que vous avez vue à l'écran, ça ouvre droit au financement par des maîtres d'ouvrage qui portent atteinte à des habitats non exceptionnels, de plaine, favorables à la vie faune steppique, de climat méditerranéen, pas trop loin de Saint-Martin-de-Crau. Bon, alors ça fait un tout petit marché, vous voyez. Et ce n'est pas demain la veille que quelqu'un ira amener une rocade, fera passer sa rocade Lille-Strasbourg par Saint-Martin-de-Crau juste pour pouvoir compenser. Et puis concrètement, nous avons lancé l'opération en 2008. Et depuis 2008, il n'y a pas la queue devant mes bureaux pour dire je veux vite acheter, j'ai envie de détruire la nature à fond. Et concrètement, nous avons vendu 20% de la réserve, dont malheureusement les deux tiers à un maître d'ouvrage qui était en souffrance de compensation depuis 1997. C'est que ça faisait depuis 14 ans que le pauvre ne trouvait pas à faire son opération de compensation. Donc l'effet pervers, pour l'instant, il est loin d'être évident. Je dirais même plutôt que les verrous colossaux que nous avons mis sont plutôt de nature à décourager l'investisseur que le contraire.
Merci. Donc le ministère a été interpellé directement sur la question des gaz de schiste et sur la question des échelles. Donc si en 30 secondes, Hélène, tu peux nous dire... voilà.
Non, plutôt sur la question de l'échelle, je pense qu'effectivement, on a pas mal parlé des outils sur lesquels on réfléchissait en France, mais il faut voir que les travaux qu'on peut faire et les travaux qu'on peut faire sur les outils économiques dépassent largement le cas de la France. On a beaucoup travaillé sur la question de l'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages liés à leur utilisation, ce qui est vraiment un mécanisme qui a vocation à bénéficier aux pays qui sont très riches en ressources génétiques. Et donc, on travaille même sur la façon dont nos industries peuvent bien reconnaître cette richesse et partager les avantages. Sur les questions de production et de consommation durable, il y a tout un volet de la stratégie européenne pour la biodiversité qui vient d'être adoptée, qui porte sur comment minimiser les impacts de notre production et de notre consommation sur la biodiversité à l'international. Et la question est de savoir comment arriver d'abord à apprécier ces impacts et ensuite comment les réduire. Donc on travaille notamment sur des questions d'affichage, mais pour bien les apprécier, la collaboration entre chercheurs, écologues et économistes, c'est vraiment un point clé de notre travail. Ensuite, on a parlé aussi de la question de comment arriver à mettre autour d'une table tous les acteurs pour progresser, notamment sur la question de l'évitement, de la réduction et de la compensation. Mais ça, c'est un chantier qui nous tient beaucoup à cœur. On travaille actuellement sur la rédaction d'une doctrine et de lignes directrices donc en gouvernance à 5 pour améliorer la mise en œuvre de cette séquence donc qui s'applique dans le cadre des projets, plans, programmes et qui vise à éviter, réduire et compenser les impacts sur la biodiversité.
Merci Hélène. Donc je vais laisser le mot de la fin à...
Je vais dire un mot des gaz de schiste. Je vais en dire un mot. J'essaye, moi. Bon, c'est...
Ce que, sur la question des gaz de schiste, parce que le ministère ne se sent pas directement compétent pour l'instant sur cette question-là. Les représentants du ministère ne se sentent pas compétents sur ces questions-là, mais ce qu'ils me disent et que ce qu'ils promettent, c'est de mettre sur le site une réponse qui vous sera donnée. Donc, sur le site des journées de l'économie, la réponse sera directement donnée. Voilà. Excuse-moi.
Oui, donc, ce n'est pas vraiment pour conclure, mais quand même, le problème de la biodiversité, c'est un problème mondial, enfin, le problème de l'érosion de la biodiversité, sa disparition. Donc, évidemment, ce n'est pas la plaine de Crocs et ce n'est pas la France qui sont au cœur de la solution. C'est évident. D'autre part, c'est aussi évident que ça dépend fondamentalement de nos modes de consommation et de production. On est dans des modes de consommation et de production qui sont générateurs de l'érosion de la biodiversité et de sa disparition. Donc la solution, elle est dans la transformation des modes de consommation et de production. Et pour l'instant, les forces existantes sur la planète, d'ailleurs il ne s'agit pas de sauver, parce que la planète elle se sauvera très bien toute seule, c'est plutôt notre présence sur la planète qu'il faudrait essayer de préserver, parce que ça c'est moins garanti. Mais en l'occurrence, la transformation des modes de production et de consommation, pour l'instant, elle n'est pas vraiment entamée. La demande mondiale, elle continue à croître, on a besoin d'énergie de plus en plus. Alors, petite parenthèse sur le gaz de schiste, je pense qu'on y aura droit, parce que s'il n'y a pas d'inflexion forte sur précisément nos modes de consommation et de production, on aura besoin des gaz de schiste quand le pétrole deviendra trop cher, ça bouffe de la flotte, bon, il y a tout un tas de cochonneries qui va derrière, mais on y aura droit, comme le Canada a droit au schiste bitumineux et qu'on détruit les forêts du nord du Canada à grande échelle parce que le pétrole, on en tire du pétrole et le pétrole aujourd'hui, il est demandé partout. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, tant qu'on ne modifiera pas profondément nos modes de consommation et de production, on continuera à éroder violemment la biodiversité. Là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, donc il n'y a pas de solution par rapport à ça. La solution, elle est dans la prise de conscience progressive des préférences collectives de l'humanité, donc des milliards d'individus, qui doivent à un moment donné se dire qu'il faut arrêter d'aller dans la direction où on est en train d'aller. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est pareil pour le changement climatique. On a fait la comparaison avec le changement climatique. Mais le changement climatique, on n'a pas plus pris conscience que... Enfin, on a un peu plus pris conscience que ça existait, qu'il y avait un grand danger à continuer dans ce sens-là. Mais on continue dans ce sens-là. Il y a deux jours, il y a un rapport qui a été publié de l'AIA où les émissions de gaz à effet de serre se sont remises à croître en 2010 alors qu'ils avaient commencé à s'infléchir. Donc on repart dans la poursuite de ce qu'on a fait dans le passé. Hier, il y a eu une conférence sur la croissance soutenable où on n'a pas parlé un mot des problèmes énergétiques et environnementaux. Et le seul problème de la croissance soutenable, c'était la soutenabilité de la dette. Donc devant l'urgence du court terme de la dette, eh bien, toutes ces questions passent de nouveau à l'as. Donc on va continuer comme ça. Ça me paraît totalement évident qu'on va continuer comme ça. Et sur la prise de la biodiversité, par exemple, par rapport au changement climatique, bon, il y a une petite nouveauté qui est de cette année, c'est la création de l'équivalent du GIEC. Donc le GIEC, qui a une vingtaine d'années, il a quand même pas mal contribué à une prise de conscience mondiale de ces questions, mais avec des tout petits résultats. Bon, la même chose, donc au niveau institutionnel, puisque c'est au niveau mondial, il y a eu un panel d'experts réunis intergouvernemental pour parler de ces questions de biodiversité, donc essayer de faire prendre conscience à l'ensemble des peuples de la Terre que continuer dans la direction où on continue est pour le moins problématique. Bon, ça ne va pas avoir des effets dans les jours qui viennent. Ça va avoir des effets. Bon, je prends le pari qu'en 2020, on n'aura pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en 2010. Je suis prêt à prendre le pari. Donc, pour l'instant, on continue. Bon, je trouve ça tout à fait dommageable. Alors, donc, pour moi, il n'y a pas d'outils comme ça, miracles, qui vont résoudre. Évidemment, on peut toujours faire bien à droite et à gauche. On peut toujours trouver des petites solutions de colmatage. Mais il n'y a pas de solution d'ensemble, de modification des modes de production et de consommation. Ça n'existe pas. Et on n'en veut pas. Je dirais que si on faisait un référendum en France aujourd'hui sur les gaz de schiste, je parie que la majorité serait pour l'exploitation des gaz de schiste. Si c'est pour continuer à continuer à utiliser sa bagnole. Parce que on a une contrainte très forte de ce point de vue-là, du point de vue de la consommation énergétique qu'on a dans le monde. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de solution.
Merci pour cette conclusion. Merci pour cette conclusion. Donc, je tiens d'abord à remercier le Conseil scientifique des Journées de l'économie qui a quand même programmer une thématique comme la biodiversité sur une grande conférence, donc je les en remercie, ça participe justement de la mise en avant de la question de biodiversité. Je remercie aussi les organisateurs des Échos pour la qualité évidemment de l'organisation, et bien entendu je vous remercie encore très 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 sincèrement d'avoir pris sur votre vendredi 11 novembre et surtout d'avoir empiété sur votre déjeuner, donc merci beaucoup.